Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et bienvenue dans Géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Dans l'histoire des relations internationales, l'institution de paix durable relève presque de l'anomalie. Il y a bien la réconciliation franco-allemande qui peut être considérée comme un succès extraordinaire depuis 80 ans, extraordinaire autant qu'exceptionnel. Au regard des guerres actuelles, la situation est loin d'être optimale. La résolution 181 votée par l'ONU le 29 novembre 1947 devait permettre une paix durable. Le résultat, ce sont 8 décennies de guerre ininterrompue entre Israël, les pays arabes et les Palestiniens. En ce qui concerne l'Ukraine, le mémorandum de Budapest de 1994 accordait à l'Ukraine des garanties de sécurité en échange de sa ratification du traité de non-prolifération des armes nucléaires. En 2014, 8 ans avant l'agression de l'Ukraine, la Russie annexait la Crimée, violant les dispositions du mémorandum sans réaction des autres parties. Et autre sujet d'actualité, Taïwan, avec la résolution 2758 de l'ONU qui, en 1971, décidait que la Chine communiste serait la seule Chine représentée dans les instances onusiennes, ce qui a permis à Pékin de nourrir son argumentaire sur le fait que l'île fait partie intégrante de la Chine. L'histoire nous dira ce qu'il adviendra. La guerre a refait irruption en Europe et au Proche-Orient et la question se pose de savoir comment faire la paix au XXIe siècle. Bertrand Badi est notre invité, professeur émérite des universités à Sciences Po, politologue. Son dernier livre, L'art de la paix, publié chez Flammarion. Bonjour Bertrand Badi.
Bonjour.
Le monde n'a sans doute jamais été autant cerné par la guerre. Parler de paix, c'est souvent passé pour un rêveur ou un naïf, un utopiste. L'art de la paix, le titre vient comme en miroir à l'art de la guerre de Sun Tzu, un très ancien traité militaire chinois. Qu'est-ce que la paix? La guerre est-elle une fatalité? Nous allons parler de tout cela. Mais d'abord, Bertrand Badi, pourquoi ce livre?
Alors d'abord, il faut que j'en raconte la préhistoire, parce que la préhistoire ne m'appartient pas. C'est Sophie de Closet qui, à la tête des éditions Flammarion, un jour m'a fait cette proposition, me disant que l'art de la guerre est un best-seller chez eux depuis fort longtemps. Évidemment, là il s'agit de plusieurs millénaires, donc Flammarion n'a pas été associé pendant plusieurs millénaires, mais enfin depuis longtemps, cet éditeur faisait de cet ouvrage l'une de ses meilleures ventes. Donc, écrivez l'art de la paix. Sur le moment, j'étais très surpris. Je me suis dit, mais d'abord, je ne suis pas à la hauteur. Et d'autre part, le chantier est immense. Tout ça a provoqué des vertiges dans mon esprit. Et je me suis dit, mais dans le fond, est-ce qu'on ne touche pas du doigt le grand problème des relations internationales vues de notre monde? À savoir que la guerre a toujours été antérieure à la paix. C'est le dieu Mars qui était le père de Romulus et Rémus, fondateurs de Rome. On sait à quel point la philosophie grecque, de Héraclite jusqu'à Homère, dans ses épopées, considère que la guerre est première, qu'elle appartient à la nature humaine. La paix, comme disait Raymond Aron, c'est la non-guerre ou l'entre-deux-guerres. Et jamais on dirait que la guerre, c'est l'entre-deux-paix ou la non-paix. Et donc, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas d'abord quelque chose à comprendre? C'est ce que je fais dans ce livre. Pourquoi la guerre a dépassé la paix, a été cet ascendant permanent par rapport à la paix? Et d'autre part, comment penser la paix? Parce que, bien entendu, ne tombons pas dans les excès d'orgueil, je ne suis pas le seul à penser la paix. Il y a eu de très grands penseurs, de Aristote jusqu'à Léon Bourgeois, qui ont pensé la paix. Mais est-ce que le moment n'est pas venu dans le monde tel qu'il se transforme aujourd'hui de remettre la paix au centre de nos relations internationales pour une raison très simple, Marie-France Chatin, et vraiment fondamentale, à savoir que la guerre, autrefois, elle était meurtrière, comme toute guerre, mais elle apportait des avantages à ceux qui la menaient. Aujourd'hui, la guerre ne sert qu'à détruire, qu'à tuer, qu'à anéantir. Elle est de plus en plus coûteuse et elle ne rapporte plus rien. Regardez la superpuissance américaine qui perd toutes les guerres. Qui peut se flatter d'avoir mené récemment une guerre qui lui a permis d'atteindre une finalité politique désirable.
Alors vous le dites, hein, effectivement, depuis 1945, finalement, les guerres sont devenues inutiles. Alors, vous qui avez travaillé tant d'années, Bertrand Badie, à enseigner les relations internationales, à parler des rapports de force, de la puissance, de la guerre, est-ce que vous avez l'impression de vous être trompé dans votre enseignement ou bien est-ce que ce sont les choses qui ont évolué avec, vous le dites, la puissance qui ne triomphe plus, les guerres qui sont devenues inutiles ?
Écoutez, quand j'enseignais, et effectivement, vous avez raison, je l'ai fait, j'ai honte de le dire, pendant presque 50 ans, les relations internationales, alors je continue à le faire aujourd'hui, il y avait toujours quelque chose qui me dérangeait. Il y a quelque chose qui ne passait pas. Et quand j'employais le mot puissance, équilibre de puissance, rapport de force, qui sont des concepts si évidents pour la plupart de mes collègues, il y avait quelque chose qui ne passait pas. Et d'ailleurs, preuve de ma bonne foi, en 2004, juste après l'intervention américaine en Irak et le destin qu'on lui a connu, j'ai publié un ouvrage qui s'appelait « L'impuissance de la puissance ». C'est-à-dire, très tôt, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de cassé dans la machine. Peut-être est-ce mon origine pluriculturelle, dont on a parlé déjà devant ce micro, qui m'incitait à me dire que, mais dans le fond, ailleurs dans le monde, on ne voit pas forcément les choses de la même façon, puissance n'a pas forcément le même sens, cette espèce de s'emblématisé qu'il a dans notre histoire européenne. Et je suis justement parti de là. Et c'est pour cela que j'ai accepté de faire ce livre, parce que je voulais justement réconcilier mon scepticisme avec la construction d'une vision enfin positive et non pas critique de ce que serait un monde plus économique, plus utilitaire, plus rationnel, c'est-à-dire un monde de paix. Vous savez, mon bouquin, c'est tout sauf de la morale et de l'éthique, c'est-à-dire ce que je veux expliquer, notamment aux princes qui nous gouvernent, c'est que la paix leur rapportera beaucoup plus que la guerre.
Alors effectivement, et pour revenir aux éditions Flammarion, il vous place comme grand penseur, hein, parce que finalement, première de couverture, Bertrand Badie, l'art de la paix, après l'art de la guerre de Sun Tzu. Bertrand Badie, bon, vous questionnez l'utilité de la guerre. Qu'est-ce que l'on peut dire, dans la façon dont les choses ont évolué, du rôle de la mondialisation dans le fait que la guerre est devenue de moins en moins utile ?
Alors vous mettez le doigt exactement là où il faut, c'est-à-dire que pourquoi la guerre a été à ce point fétichisée, c'est que lorsqu'on a construit les États-nations modernes en Europe, c'est-à-dire au moment de la Renaissance, nous sommes en gros au XVIIe siècle, si vous voulez, XVIe, XVIIe, on a intuitivement, plus qu'explicitement d'ailleurs, pensé que l'État avait besoin de la guerre pour prospérer, que la guerre avait besoin de l'État. Vous connaissez le fameux aphorisme « Ah, Dieu que la guerre est jolie », là, ça a été très vite « Ah, Dieu que la guerre est utile ». Et effectivement, on ne pouvait pas penser, on ne peut pas encore aujourd'hui penser la construction de l'État en Europe sans mettre en évidence le rôle premier, je dis bien premier, que la guerre a pu tenir. Le très grand historien sociologue états-unien Charles Tilly, qui est un très très grand monsieur, décédé hélas aujourd'hui, avait cette formule remarquable qui résume tout, « War making, state making ». Bon, la guerre fait l'État et l'État fait la guerre. Et du coup, bah, la paix, c'est ce qui se passe entre deux rounds, quoi, en quelque sorte, ce vide, ce creux. Avec la mondialisation, et merci d'avoir introduit tout de suite ce concept, la donne a changé. Pourquoi ? Parce que le lien intime qu'il y a entre la guerre et l'État tient à la nature compétitive des relations entre États. C'est-à-dire les États ne peuvent demeurer qu'en se faisant concurrence. Le juriste philosophe assez peu recommandable allemand Carl Schmitt disait, mais finalement, on a besoin d'ennemis pour qu'une nation puisse exister, donc que l'État-nation puisse s'accomplir. Donc tout ça montre l'effet structurant de la compétition interétatique. Mais regardez le monde aujourd'hui. Le monde aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Les défis qui nous sont les plus menaçants, les insécurités les plus létales dans le monde aujourd'hui, ce sont les défis globaux, c'est-à-dire ceux qui ne relèvent pas de la compétition entre États, mais qui relèvent de la commune exposition des 8 milliards d'humains aux mêmes menaces climatiques. On en sait quelque chose, même si les dirigeants et la plupart ne veulent pas voir, sanitaire. Nous sortons, et d'ailleurs en sommes-nous sortis de la crise du Covid, qui l'a très bien montré, alimentaire. 10 millions de morts chaque année du fait de la faim, c'est-à-dire l'équivalent de 8 attaques par jour sur le World Trade Center pendant toute l'année. Donc tout ça montre que nous avons dépassé historiquement le stade de la compétition pour entrer dans celui de l'intégration. Alors, les princes qui nous gouvernent, ils appartiennent à l'ancien monde. Ils comprennent que sans compétition, c'est beaucoup de leurs privilèges, de leurs ressources de pouvoir qui risquent de disparaître. Et donc, ils s'accrochent à cet ancien monde. Et ils essayent de traiter les défis globaux selon la grammaire de l'ancien monde. On l'a vu au moment du Covid, où c'était les logiques souverainistes qui reprenaient le dessus. On fermait les frontières. Non, mais vous vous rendez compte, on fermait les frontières pour empêcher le virus de passer, alors que le virus, on l'attrapait entre Strasbourg-Saint-Denis et la République sur la ligne 8 du métro, mais pas seulement sur celle-là. Donc, il y a une incompréhension qui accroît les dangers, les tensions. Et c'est la raison pour laquelle je dis, mais si on regardait plutôt dans le sens de cette intégration, ben on gagnerait.
Finalement, Bertrand Badie, ce que vous évoquez là, c'est ce fossé sans cesse grandissant entre les sociétés qui composent le monde et les États censés les représenter.
À nouveau, vous mettez le doigt au bon endroit, c'est-à-dire que l'une des grandes mutations liées à la mondialisation, mais pas seulement d'ailleurs à la mondialisation, c'est l'appropriation sociale des relations internationales. C'est-à-dire le fait que tout le monde entre dans l'arène internationale, strictement réservée aux VIP, c'est-à-dire aux princes et leurs stratèges, pendant des siècles et des siècles. Et un ministre des Affaires étrangères français, très brillant au demeurant, me disait une fois, et devant mes étudiants, mais mêler les sociétés aux affaires étrangères, ce serait comme admettre la famille du malade en salle d'opération. Ben voilà, maintenant, toute la famille est dans la salle d'opération et tout le monde opère en même temps. Les nouvelles relations internationales, c'est ça. Regardez, on en reparlera peut-être parce que ça me fascine, cette alliance entre Trump et Elon Musk. C'est quelque chose d'extrêmement suggestif pour l'avenir. Donc, dans une logique d'appropriation sociale, on s'aperçoit d'abord que le social court plus vite que le politique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le politique, on le voit face au conflit actuel, est tétanisé soit par recours à de vieilles méthodes, soit par, je dirais, aveuglement stratégique. Regardez comment on n'a pas voulu voir la question palestinienne pendant des décennies. C'était un bel exemple. Alors que les sociétés vivent, elles s'expriment parce qu'elles ont de l'empathie, parce qu'elles s'identifient à des causes qui leur sont extérieures, parce qu'elles sont impliquées aussi dans ce qui se fait un peu partout dans le monde. Et du coup, une nouvelle grammaire se met en place. Une nouvelle grammaire qui n'est pas forcément rassurante. Hein. L'appropriation sociale n'a pas que des vertus. Elle peut créer la rage, le fanatisme, le radicalisme, la violence, des formes nouvelles de violence que d'aucuns appellent terrorisme. Tout ça, c'est évident. Mais raison de plus pour penser l'intégration. Parce que je désignais la rage comme l'un des vecteurs des relations internationales aujourd'hui. Mais c'est quoi la rage ? La rage, c'est le résultat de la non-reconnaissance, du mépris, de l'humiliation. Il y a 10 ans, j'avais fait un livre sur l'humiliation pour montrer que c'était devenu un paramètre essentiel des relations internationales qui enclenche cette violence qui est, bien sûr, antithétique de la paix. Donc, premier impératif de la paix, reconnaître l'autre, le comprendre, aller vers ce que le grand Victor Hugo appelait la sympathie des âmes. La sympathie des âmes, on ne l'a pas du tout. Regardez comment on regarde, avec quelle indifférence méprisante on regarde les 45 000 morts de Gaza.
Alors, justement, vous faites la part belle aux émotions hein, dans votre ouvrage. Effectivement, c'est...
J'aime pas ce mot-là. Ce n'est pas de l'émotion. C'est souvent quelque chose de pensé, délibéré, choisi. L'humiliation, ce n'est pas seulement de l'émotion. C'est une lecture du monde qui est marquée par la découverte de cette inégalité structurante.
Alors, effectivement, vous soulignez que l'humiliation, c'est le pire des terreaux. Et si on poursuit un petit peu, vous avez un volet sur la question des sanctions, que vous estimez tout à fait, là aussi, c'est vouloir assassiner l'autre. Alors, on va commencer et on poursuivra dans la deuxième partie de l'émission, Bertrand Badie. Ce que j'aimerais, c'est, puisque vous l'avez rapidement évoqué, que révèle de votre point de vue, de part et d'autre, les conflits d'aujourd'hui. J'en ai nommé quelques-uns en introduction, l'Ukraine, Gaza. On commence par Gaza ?
Oui, peut-être est-ce le plus emblématique. Vous savez, j'y faisais référence il y a un instant en disant que Gaza, c'est le résultat de la non-reconnaissance de l'autre. Dans mon livre, je décris et je dégage 9 vertus qui fondent la paix positive. Parce que c'est aussi ça le fond du problème. Pourquoi il y a des guerres ? Pour quantité de raisons, hein, ne simplifions surtout pas. Mais la raison essentielle, c'est qu'il y a des guerres parce que d'abord, on ne pense pas à la paix. Et à partir du moment où vous ne pensez pas à la paix, vous vous condamnez à l'absolue nécessité de la répétition des guerres. La paix au Proche-Orient, c'est la reconnaissance de l'autre, c'est la satisfaction des besoins humains et sociaux de l'autre, c'est l'accueil de l'autre, c'est l'institutionnalisation des rapports avec l'autre, c'est la gestion de ce qui vous sépare, et c'est la fonction de la diplomatie, ces quantités d'impératifs qui n'ont jamais été respectés au Proche-Orient. Le drame proche-oriental, le drame palestinien, il a commencé par un partage qui a été officialisé par les Nations Unies en novembre 1947, qu'Emmanuel Macron a rappelé, ce qui n'a pas plu d'ailleurs à M. Netanyahou. Et déjà, ce partage, il s'est fait dans l'ignorance de ceux que l'on allait partager, auxquels on n'a pas demandé l'avis. C'est le péché originel. C'est-à-dire, lorsque, en relation internationale, vous ne créez pas les vraies conditions d'une altérité, vous allez mécaniquement vers la guerre. Et c'est la raison pour laquelle il est important de penser la paix. L'art de la paix, c'est ça. C'est-à-dire poser les bases solides qui permettront d'éviter cette dégénérescence. Quand vous construisez une maison, vous commencez par vous assurer que les fondements sont solides. Dans les relations internationales, on ne s'est jamais intéressé à ce fondement. Le fondement, c'était respecter les droits des Palestiniens, les associer à la définition d'une solution, essayer d'imaginer et de comprendre ce qu'étaient leurs attentes et comment les rendre conciliables avec les autres attentes, et notamment celles des populations juives qui avaient peu à peu migré vers cette terre. Donc, cette construction de l'altérité, nous ne savons pas l'affaire. Nous ne savons pas l'institutionnaliser. Regardez les Nations Unies. Est-ce que c'est l'institutionnalisation de l'altérité ? Oui, il y a un grand homme qui le voulait, c'était Léon Bourgeois. Il a été sapé par Woodrow Wilson qui s'en moquait éperdument. Lui, ce qu'il voulait, c'est qu'on reconnaisse les puissances et qu'on fasse un club de puissances qui puisse régler tous les problèmes. Ce qui, dans un deuxième temps, a donné naissance au Conseil de sécurité, dont on connaît l'échec. Donc, c'est bien la preuve que nos institutions, déjà, sont en décalage avec l'idéal de paix. Maintenant, l'autre élément dans l'histoire du conflit israélo-palestinien, c'est que Israël a toujours considéré que l'essentiel pour assurer sa sécurité était de faire usage de la force et de la puissance. Or, que voit-on ? On voit depuis 76 ans, comme on le voit partout ailleurs dans le monde, la puissance n'a jamais rien construit. C'est-à-dire que vous avez beau vous mobiliser, Dieu sait, tous les ressources et tous les sacrifices qu'Israël a dû consentir pour mobiliser de la puissance, ça n'a abouti à rien, zéro du point de vue des résultats. C'est-à-dire que la menace, le risque, la violence, la rage, telle qu'on l'a vu le 7 octobre, sont toujours là. Donc la puissance, elle ne permet pas de bâtir la paix. Et l'escalade à laquelle se livre M. Netanyahou, en utilisant toujours plus de puissance, toujours plus de violence, en détruisant, en tuant de plus en plus, eh bien, aboutit à quoi ? Eh bien, à alimenter cette rage aux résultats atroces qu'on a pu connaître le 7 octobre.
Et avec une communauté internationale qui est impuissante à raisonner, le gouvernement israélien. On vous retrouve, Bertrand Badie, après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bertrand Badie, notre invité, professeur émérite des universités à Sciences Po, politologue, son dernier livre, L'art de la paix, publié chez Flammarion. Bertrand Badie, on a terminé la première partie de l'émission. Je vous posais la question de savoir ce que révèlent les conflits d'aujourd'hui. On a parlé d'Israël, de la guerre de Gaza. J'aimerais qu'on aborde le dossier ukrainien, là aussi, de part et d'autre. Quel regard est le vôtre ?
Alors, d'abord, première réaction, je me rappelle l'avoir eue. J'étais en Afrique au moment où a été déclenché le conflit russo-ukrainien, le 24 février 2022. J'étais à N'Djamena et je voyais comment mes amis tchadiens, mes collègues tchadiens avaient une toute autre perception, toute autre lecture de ce conflit. Ce qui est intéressant, ce qui montre qu'il faut faire attention quand on veut construire la paix, de ne pas toujours partir exclusivement de sa propre vision, mais chercher à comprendre quelle est la vision de l'autre. Mais toujours est-il que moi, ma première réaction, ça a été de dire, tiens, une guerre à l'ancienne. Comme on parle de plats à l'ancienne, ils sont bien connus. Et effectivement, Poutine est un homme du 19e siècle, c'est-à-dire un homme qui a l'instinct de la conquête, de l'annexion. Et ce qui s'est révélé, c'est quand même très intéressant, c'est qu'il a perdu. Il a été mis en déroute, c'est-à-dire, rappelez-vous l'ambiance de fin février 2022, tout le monde conseillait à Vladimir Zelensky de quitter Kiev, d'aller
se réfugier. Les Américains surtout.
Voilà, eux si bien renseignés, d'aller se réfugier soit à l'ouest de l'Ukraine, du côté de Lviv, ou alors carrément à l'étranger. Et finalement, ça ne s'est pas produit. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut méditer. Pourquoi ça ne s'est pas produit ? Bon, parce qu'il y a eu une réaction des Occidentaux, des livraisons d'armes, etc. Mais surtout à cause de la résistance sociale, de ce qu'on appelle maintenant la résilience du peuple ukrainien. Et quand je disais que Poutine est un homme du 19e siècle, c'est parce que un homme du 19e siècle, un adepte de Clausewitz, vous savez, le stratège prussien du début du 19e siècle, ne peut pas comprendre que la troisième armée du monde puisse être défiée efficacement par un peuple qui, en plus, ne disposait pas de moyens exceptionnels pour résister. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'on avait caché que l'une des composantes essentielles des relations internationales aujourd'hui, vous l'évoquiez en partie tout à l'heure, c'est l'énergie sociale. C'est-à-dire que la guerre autrefois, celle qui marchait, si vous me permettez l'expression, c'était le canon contre le canon. Et ce qu'on a découvert à la faveur des guerres de décolonisation, ça a été le premier moment de révélation de ce paramètre nouveau, c'est que le canon est puissant contre le canon, mais pas contre l'énergie sociale. Au contraire, plus on arrose l'énergie sociale de missiles, de roquettes, de bombes de toute nature, plus on la renforce. Et ça, la guerre d'Algérie nous l'a montré à nous, Français. La guerre en Irak, en Afghanistan, en Somalie, au Vietnam, l'a montré aux États-Unis. Et donc, Poutine a perdu parce qu'il n'a pas su intégrer dans ses calculs stratégiques à l'ancienne cette énergie sociale qui a été le grand vainqueur du premier épisode. Depuis, nous sommes presque à 3 ans. En février prochain, nous serons à 3 ans, c'est-à-dire on est à 2 ans, 9 mois de ce conflit. La troisième armée du monde ne contrôle que 18% du territoire ukrainien, encore que dans ces 18%, il y avait un morceau, la Crimée, qui avait été ôtée de l'Ukraine par d'autres moyens que la guerre auparavant. Et le reste, notamment les deux oblasts du Donbass, avaient été plus ou moins contrôlés par des milices pro-russes avant la guerre. Donc le résultat de la guerre a été très pauvre. Alors maintenant le problème, c'est comment convertir la guerre en paix. Et ça, moi je suis très étonné par le discours de celles et ceux qui nous disent « Oh, mais de toute façon, toute guerre finit par une négociation, par un compromis ». Vous en avez vu, Marie-France Chatin, des négociations et des compromis qui mettent fin à des guerres depuis 1856, traité de Paris mettant fin effectivement à la guerre de Crimée. N'oubliez pas que la Première Guerre mondiale s'est terminée sans négociation entre le vainqueur et le vaincu. Et encore, il y avait un vainqueur, donc ça permettait de mettre fin à la guerre. la Seconde Guerre mondiale, il n'y a jamais eu de négociation. Et regardez ce torrent d'accords que vous signaliez en introduction tout à l'heure, que l'on a vu fleurir depuis 1945. Aucun n'a brillé par son efficacité. Hein. Accord d'Alger sur la guerre au Mali, accord d'Arusha, accord de Libreville, accord de Lagos, accord de Yaoundé, accord de Bangui. On pourrait ainsi continuer, continuer. Donc, je ne crois pas à une paix transactionnelle en Ukraine. Je vois mal Zelensky disant « bon, ben, je te donne ce petit bout-là, mais toi, en échange, tu me feras telle ou telle concession ». Ça, c'est ce qu'on appelle la méthode transactionnelle, qui relève de ce temps dépassé de la compétition entre États. Maintenant, on est face à des enjeux globaux. Je ne crois pas que la méthode transactionnelle soit la plus efficace. Et si elle a lieu, elle n'aura pas de lendemain.
Alors, la grande inconnue, c'est Trump, ce qu'il va faire. Alors, Bertrand Badie, il y avait tellement de choses dans ce que vous venez de dire, et notamment dans votre livre, vous le soulignez, on n'a pas tiré les leçons de la décolonisation. Vous avez parlé des accords en Afrique, c'était bien, parce que je voulais vous poser la question, moi je ne l'ai pas mentionné en introduction, mais il y a aussi ces conflits au Sahel, etc. Voilà, quelle lecture avoir. Je ne sais pas si vous voulez dire en dire quelques mots. Après ça, j'ai plein de questions par rapport à la guerre d'Ukraine. Alors, l'inconnu, c'est effectivement Donald Trump, qui se présente comme homme de paix. Alors, il va faire la paix en 24 heures. Et j'ai cette question aussi, les pays qui soutiennent l'Ukraine, les États-Unis, l'Europe, est-ce qu'ils sont en guerre contre la Russie, Bertrand Badie ?
Ah, au sens juridique du terme, même si la notion de belligérance en droit est quelque peu fragile et vacillante, ils ne sont pas en guerre. Une guerre, ça se déclare et ça se traduit par la mobilisation d'une armée contre une autre armée. On n'en est pas là. Alors évidemment, Poutine a beau jeu de dire « Mais oui, mais si vos missiles nous attaquent sur notre sol, si vous donnez à notre ennemi des moyens décisifs de défense, bah, c'est comme si vous étiez co-belligérant. » Vous savez, moi, dès le premier jour, j'ai appelé cette situation la co-belligérance non-belligérante. C'est vous dire à quel point on est dans le flou le plus obscur. Mais rebondissons sur Trump, parce que c'est un phénomène qui ne doit pas être négligé. Ce personnage est énigmatique. Vous savez, ceux qui disent « il fera ceci, il fera cela, il va faire... » Bah, ils sont, manifestement, ce sont des voyants, ce que moi je ne prétends pas être. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de flou. C'est un homme qui sait formuler les phrases qui sont attendues, mais qui ne sait pas fabriquer les politiques publiques, et notamment les politiques étrangères, qui sont nécessaires. Voilà la définition qu'on puisse donner du personnage. Mais vous avez raison de l'associer à la question de la paix, parce qu'il apparaît, non seulement dans son discours, mais dans sa pratique, une sorte d'hostilité à la guerre, si je peux employer cet oxymore, cette sorte de désir de paix. Seulement, le problème, c'est que la paix voulue par Trump n'est pas une paix humaniste. Ce n'est pas un homme qui a une vision d'un ordre intégré, celle que j'essaye de développer dans ce livre. Il suffit de l'écouter dire des horreurs sur le risque climatique, par exemple. Le climato-scepticisme, c'est l'anti-paix par excellence. Bon. C'est un homme qui a une toute autre lecture de la paix, qui est d'ailleurs une lecture très conservatrice, très réactionnaire, qui consiste à dire « la paix, c'est bon ». Parce que ça permet d'économiser un certain nombre de ressources que l'on mobilise pour faire la guerre. C'est un peu ce que Grotius, philosophe du XVIIe siècle, du début du XVIIe siècle, nous disait, lui qui était un peu le conseiller de la Compagnie des Indes néerlandaises, « Oh, la paix, ça coûte au commerce, donc il vaut mieux la construire ». Sauf que Grotius était plus philosophe et plus humaniste que le futur président des États-Unis. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il est en train de bâtir un drôle de modèle qui associe un ordre politique intérieur, illibéral, autoritaire, traditionnaliste dans les valeurs, notamment, et dans le rapport, je dirais, à la société, à un ultra-libéralisme mondialisé, au capitalisme mondialisé. Cet alliage entre l'ordre autoritaire à l'intérieur et l'ultra-libéralisme à l'extérieur est symbolisé par le mariage entre Elon Musk et Donald Trump. Ce modèle-là risque d'avoir un avenir. Parce que si vous regardez en Inde, vous trouvez la même alliance entre les milliardaires indiens et M. Modi. Si vous regardez du côté de la Russie, la même chose entre les milliardaires russes, dont deux d'ailleurs sont russo-israéliens, c'est intéressant à noter, et Poutine. Si vous regardez du côté chinois, vous voyez aussi des choses qui y ressemblent. Et si vous regardez du côté européen, je ne voudrais pas, dans cette noble maison du service public, évoquer certaines chaîne privée, mais on voit des personnages qui ressemblent, des petits Musk, des nano-Musk, disons. Hein. Et tout ça peut présager de l'avenir, d'une sorte de compromis, à savoir, oui, on sort du temps classique, et bien, pour ne pas tout perdre de ce que nous régalait ce temps classique, on va construire une sorte d'alliance entre l'illibéralisme intérieur et un capitalisme échevelé et mondialisé à l'extérieur. Et tout ceci va nous conduire à une nouvelle lecture de la guerre. Et d'ailleurs, il y a eu un mot très intéressant prononcé par Trump lorsqu'il vient de nommer le général Kellogg comme responsable du dossier russo-ukrainien. Et il a dit « Nous allons imposer par la force un ordre de paix ». Eh bien, l'équation est exactement celle-là. Or, moi, ce que je dis, c'est que dans le monde actuel tel qu'il est, imposer la paix par la force, c'est en fait ressusciter la guerre. Vous voyez, là, l'impasse est complète. Parce que quand vous imposez par la force quelque chose aux autres, sans les consulter, sans les respecter, sans les traiter des noms que je ne peux pas dire au micro, comme l'a fait M. Trump à bien des occasions, eh bien, vous créez chez eux non seulement cette humiliation dont on parlait tout à l'heure, mais une réactivité belligène qui risque d'aggraver les choses plutôt que de les résoudre.
Vous écoutez RFI, Marie-France Chatin.
Alors, Bertrand Badi, il y a encore plein de choses, mais je vais les limiter. Il y a une question que vous n'abordez pas dans votre ouvrage, c'est celle de la justice internationale. Facteur de paix, en tout cas, qui devrait contribuer à la paix. On voit ce qui se passe et les débats en France, mais pas seulement autour de la condamnation de Benjamin Netanyahou par la Cour pénale internationale.
Mandat d'arrêt.
Quel est votre regard sur la justice, justement, sans cet facteur de paix et...
Je ne suis pas sûr de ne pas en avoir parlé. Il me semble, malgré mon grand âge, me souvenir de ce que j'ai écrit. Et notamment lorsque je citais l'un des grands hommes de la paix, qui est Nelson Mandela, j'ai fait référence à un propos qu'il a partagé avec Desmond Tutu lorsqu'il disait « Il ne peut pas y avoir de paix sans justice et réconciliation ». Vous savez ce que justice et réconciliation veut dire comme symbole de la prise de pouvoir par l'ANC et par Mandela en Afrique du Sud. Pourquoi ? Parce que pour moi, la justice, elle n'est pas première par rapport à l'humanité, c'est l'humanité qui est première par rapport à la justice. C'est-à-dire, la justice, c'est la composante indispensable d'une humanité accomplie. Comment voulez-vous qu'un être humain qui a souffert, qui a été victime, qui a été humilié, marginalisé, persécuté, puisse vivre en paix avec l'autre s'il n'a pas le sentiment que ses souffrances ont été reconnues et, si possible, réparées. Donc, bien sûr que la justice est une composante absolue de la paix. Mais c'est comme dans un puzzle. Il faut savoir où mettre la pièce pour arriver à une construction harmonieuse. Si vous procédez par ignorance de toute la complexité de l'humain, vous allez faire de la justice une justice des vainqueurs qui finalement n'imprimera pas dans les consciences. Il faut faire une justice humaine, c'est-à-dire la rendre dépendante de l'humanité. Vous savez, dans mon livre, je rends hommage à 4 penseurs de la paix, peut-être 5. Aristote, Saint-Augustin, Marcille de Padoue, l'abbé de Saint-Pierre et Emmanuel Kant. Eh bien, tout cela, et ça c'est la grande réussite finalement de la philosophie, on dit, mais la paix, ça ne peut être que l'absolue satisfaction des besoins humains. Vous savez, l'humain, vous avez entendu des campagnes électorales dans lesquelles les candidats parlaient de l'humain ? Non, on parlait des intérêts, mais on ne parlait pas de l'humain. Et moi, j'ai découvert ce théologien, philosophe, penseur algérien du 5e siècle, qui était Saint-Augustin, et j'étais abasourdi qu'ils disent « mais la paix, c'est d'abord que l'on satisfasse les besoins essentiels de l'être humain, manger et consommer de l'eau pure. »
Et l'être humain dans sa globalité, c'est-à-dire que vous le dites, parce que finalement les auditeurs vont penser que je n'ai pas lu votre ouvrage, ce qui est vraiment loin d'être le cas à propos de la question de la justice internationale. Oui, donc nécessité qu'il y ait la paix ne peut être que globale. Alors, finalement, ça va être ma dernière question. Vous soulignez l'importance de l'éducation en disant qu'il faut des écoles qui forment à la paix. Et pour terminer, j'ai cette question, Bertrand Badi, finalement, quelles sont les options possibles pour l'avenir de la paix dans le monde ?
Alors, l'option première, c'est changer de logiciel. C'est-à-dire penser la paix avant de penser la guerre. Regardez sur l'actualité brûlante, c'est très bien, le cessez-le-feu entre le Liban et Israël, et surtout pour les populations qui sont sous les bombes. Je ne néglige pas. Mais la paix n'a pas progressé d'un millimètre, parce qu'on ne pensait que la gestion de la guerre et l'interruption de la guerre. Donc la condition essentielle de la paix, c'est d'abord de la penser. Et vous savez, il sort des centaines de livres sur la guerre. Vous avez vu des livres sur la paix ? Moi, c'est ça qui m'avait excité pendant relever ce défi, c'est qu'il n'y a pas de livres sur la paix. Donc il faut déjà penser la paix. Il faut construire véritablement ce que le grand philosophe Gadamer appelait la fusion des horizons. C'est-à-dire la grande question dans la mondialisation, c'est comment des humains qui ont des histoires si différentes, entre les Chinois, les Africains, les Européens, les Américains, les Arabes, etc., puissent véritablement construire des dénominateurs communs. Ce n'est pas à nous, occidentaux, à dire « voilà ! Les principes universels, vous les choisissez ou vous êtes des sous-développés. » Non, c'est à tout le monde qu'il appartient de construire en même temps cet ordre universel. Ça va impliquer, vous savez, on est entré dans la bataille des normes. La mondialisation n'a pas de normes. Elle a que celles que l'Occident lui a prêtées au moment où elle se développait. Maintenant, il va falloir construire ces normes. Et il va falloir faire preuve de ce point de vue-là d'audace et il n'y a pas de normes sans respect préalable. C'est-à-dire qu'il faut savoir traiter avec tout le monde sur un pied de respect. Ce n'est pas normal qu'on puisse se permettre de dire qu'à un chef d'État africain, vous avez été élu par des élections à l'africaine. Ce n'est pas normal de dire à un président d'un État qu'il est parti réparer la clim, par exemple. Et beaucoup de choses encore comme ça qui, croyez-moi, sont profondément ressenties par ceux qui s'identifient à leur président, par exemple. Donc ça, c'est un changement de grammaire. Et il faut revenir à la vieille définition de la diplomatie, enfin la vieille, une définition déjà qui a plusieurs décennies de la diplomatie, l'art de savoir gérer les séparations. On ne sait pas gérer les séparations parce que on aime l'entre-soi, justement. Et donc, il va falloir maintenant construire l'entre nous tous.
Changer de logiciel. Merci Bertrand Badi pour cet entretien passionnant. Je rappelle que vous êtes professeur émérite des universités à Sciences Po, politologue, et votre dernier livre, L'art de la paix, publié chez Flammarion. Géopolitique, qui était signé Marie-France Chatin, avec Cécile Lavolo et Mathias Golchani. Vous êtes bien sur RFI. Place au Journal Afrique.